Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Product Café. Comme à notre habitude, ce matin, je retrouve mes acolytes Anna et Victor. Comment ça va, Anna ?
Ça va très bien, et toi, Axel ?
Ça va bien, comme un vendredi, et puis bientôt les vacances scolaires.
En parlant de vacances, Victor, de ton côté, comment ça va ?
Ah, ça va très bien. Alors, c'est pas vraiment des vacances, hein, parce que bon, pour expliquer à tout le monde, là, je suis aux Seychelles pendant une dizaine de jours. Donc alors j'ai quand même un peu de travail à faire, mais l'idée c'est
le mec il te dit quand même qu'il est aux Seychelles et que c'est pas vraiment les vacances. Ouais. C'est un scandale.
On va dire j'ai la forme des vacances, mais c'est pas complètement le fond des vacances. En tout cas c'est un très bon, c'est très agréable. Bon, là il fait 30 degrés, et ça fait trop de mois que j'ai pas vécu ça sur Paris. Donc voilà, j'en profite, mais je vais pas trop détailler parce que j'ai pas envie de mettre le seum à tout le monde. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, qui ont bon fond, ils aiment bien voir d'autres personnes profiter de beaux paysages et tout, mais je sais qu'Axel il est pas comme ça et que il va être un peu frustré si jamais je mets trop en avant les beaux paysages.
Je suis pas du tout comme ça. Non, mais en vrai, depuis que la semaine dernière tu nous as partagé les coulisses de ta vie de dating, moi maintenant j'ai juste envie de tout savoir sur toi, Victor.
Non, mais en tout cas ça va très bien. Je suis très content et non, mais honnêtement je suis hyper heureux d'être là aujourd'hui parce que voilà, on a un invité que j'apprécie beaucoup. Alors je sais pas si j'ai vu le nom sur l'ange, ça serait le S ou le F. En tout cas c'est le Steph, je pense. Et la plupart de vous devez sûrement le connaître parce que il amène beaucoup de valeur, il partage beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur le product management. Donc c'est Stéphane Helbeck. Salut Stéphane, comment ça va ?
Salut Victor, Anna, Axel, coucou et merci de m'inviter. Ça me fait très plaisir de vous rejoindre.
Eh ben écoute, avec grand plaisir, on est content de t'avoir. Et puis, comme disait Victor, voilà, tu fais partie du club de, je sais pas si on dit influenceur de produits, mais merci pour tous les contenus que tu partages.
Ben, que nous partageons tous, en fait. Je pense que c'est ça qui fait le lien entre nous tous ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se réunit aujourd'hui, j'ai l'impression, pour parler encore et donner notre avis sur ce qui se passe.
Nous, on aime juste aussi bien accueillir des gens qu'on trouve sympas.
Ouais, c'est chouette.
La liste des critères, elle est pas très très longue, en vrai.
C'est vrai. Il faut juste être sympa et puis après avoir des trucs à dire.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ok. Oui. Dans cet ordre-là. Ok. D'accord.
Pierrot, quelles sont les actus de ton côté, Stéphane ?
Du point de vue pro, l'année a démarré sur les chapeaux de roue. Vous l'avez peut-être vu l'année dernière, j'avais lancé un petit bootcamp Hero en mode B2C et en fait ça cartonne en B2B. Donc j'ai des entreprises qui me contactent pour demander de faire des ateliers à la journée ou sur deux jours. Excellent. En B2B, de structures qui vont, d'équipes qui vont de 3 personnes produits à, il y a 2 semaines, j'ai fait 74 personnes dans une seule salle. Donc, c'est pas le même niveau de préparation, c'est pas le même niveau
bientôt
de stress.
Bientôt le Stade de France.
On y travaille, mais je préférais le Stade Vélodrome, personnellement. Enfin, ceux qui savent comprendre.
Est-ce qu'à un moment dans la formation, tu dis, you can be hero just for one day?
Alors, bien sûr, c'est même quasiment le début. Évidemment, ça fait partie du jeu. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, à chaque fois, il y a des problématiques différentes en fonction des entreprises, en fonction des organisations, en fonction des gens, en fait. Et c'est ça qui m'excite vraiment, c'est de travailler à partir des personnes. Donc, on est un petit peu sur la théorie, beaucoup sur les retours d'expérience et essentiellement sur des ateliers du travail collaboratif. Et c'est vraiment cool. Bref, très occupé.
Trop chouette. Hein, trop cool,
très bien.
Cool. Alors, il y a un sujet, vous en avez forcément un peu tous entendu parler. Et je sais que tous les quatre, là, autour de la table, on a évidemment vu passer des trucs sur les Apple Vision Pro. Moi, pour être très sincère, hein, ça fait 3-4 semaines que je suis vraiment, j'ai vraiment très envie de l'acheter. Donc, je suis déjà allé sur le site d'Apple pour voir si c'était bien dispo. Enfin, donc vraiment, le truc me titille beaucoup. Bon, parce que c'est Apple. Donc, moi, j'aime beaucoup Apple, évidemment. J'aime tous leurs produits. Voilà, à la fois un peu comme une groupie qui manque un peu de discernement, mais aussi parce que vraiment, je trouve que ça a une grande qualité.
Je confirme, tu manques de discernement, Victor.
Anna, je crois que t'as même poussé le bouchon un peu plus loin parce que t'es allé voir en boutique. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
Alors moi c'est un peu différent. Effectivement, je suis allée en boutique, mais pas pour le Vision Pro. En fait, c'était plus voilà pour introduire le sujet. Rebondir, c'est voilà une confrontation à une technologie où je trouve que ça n'a pas été très bien mené, très bien géré en fait par les personnes qui l'ont installé. En fait, j'étais en boutique pour essayer voilà des vêtements la semaine dernière. Et je rentre dans la cabine, voilà, une expérience un peu standard où j'ai quelqu'un qui m'accueille en amont de la cabine d'essayage, qui me demande combien est-ce que vous avez d'articles, etc. Qui m'emmène jusqu'à la cabine, ferme pour moi, etc. Et là, je vois qu'il y a un écran. C'est un peu marrant parce que moi, c'est un peu voilà, ce dont je me rappelle dans les films un peu futuristes des années 2000 et ou des Barbie. Bon, voilà, je suis pas de la même génération que vous, mais des Barbie que je pouvais avoir où il y avait, bah, des écrans qu'on pouvait un peu tactiles qu'on retrouvait dans les cabines d'essayage où moi l'idée que je m'en faisais c'est que ça me prenait en vidéo et que ça me retournait en retour caméra, moi, dans les vêtements. Bon, du coup, ça m'a un peu fait flipper au début parce que, bah, en fait, il y avait zéro explication. Du coup, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, je suis actuellement prise en vidéo live et on va me projeter des trucs sur moi. Donc, bon, j'étais, sachant que c'était une boutique de sous-vêtements. Donc, voilà, j'étais pas très à l'aise. Mais au final, je vois qu'il y a des petits encas. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que, donc, la taille n'était pas bonne. Donc, je demande à la personne de la cabine d'essayage, est-ce que vous pouvez aller me chercher la bonne taille? Et en attendant, voilà, je m'ennuyais. Donc, je commençais un peu à bidouiller sur le petit écran. Et en fait, super bien fait. Il y avait 6 petites cartes. Je veux changer de taille. La couleur ne me convient pas. Je veux essayer un autre modèle, etc. Donc, trop chouette. Mais juste, aucune explication. La dame revient. Et là, je lui dis, vous savez comment ça marche? Elle m'a dit, ah non, j'avais même pas remarqué. Et en fait, ils avaient mis ça quand même dans une quinzaine de cabines d'essayage. Et ce que je trouve quand même super ironique, c'est que, en fait, elle voit ça, elle doit se dire, mais en fait, on essaie de me remplacer, potentiellement. Et alors que moi, enfin, spontanément, je préfère largement un contact humain. Donc, en fait, je trouvais ça juste rigolo, mais ça m'a fait un peu flipper, moi, de premier abord, de voir cet écran. Et le fait qu'elle me dise, ah non, j'avais même pas remarqué. Elle était tout aussi curieuse que moi. Elle avait limite envie de toucher aussi pour moi. Mais en fait, ça m'a fait un peu rire parce que, voilà, on parle beaucoup de toutes ces technos qui viennent potentiellement remplacer les jobs de gens. Mais en fait, si on n'explique pas, non seulement pour les clients, mais aussi pour les premières personnes qui vont interagir avec ces technos, faut pas s'étonner que les gens ensuite soient réfractaires.
Oui, c'est très vrai. Et si on peut faire une petite transition justement sur le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, qui est celui de l'Apple Vision Pro, je pense qu'on est un peu là-dessus aussi. Donc, Victor, tu le disais, très excité à l'idée de l'acheter. Bon, j'avoue, pareil, hein, j'ai été forgé dans le même moule. Tout ce qui est Apple, il faut absolument l'acheter, même si c'est ridicule. Et là, pour le coup, donc ils ont sorti ça le 2 février. J'ai sans doute, comme vous, regardé beaucoup de vidéos, lu beaucoup d'articles, etc. Et il y a deux chapelles. Il y a la chapelle de ceux qui trouvent que le matériel est extraordinaire, que la qualité du design industriel est top, que la qualité de l'écran est fantastique, que l'expérience immersive est géniale. Bref, il y a un effet waouh, très clairement. Enfin, comme tous les produits Apple en première version. Notamment sur la partie film, sur le bureau étendu. Enfin, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et le use case que j'ai vu, qui m'a le plus percuté, c'est celui de l'utilisation dans un avion. Donc, le cinéma dans un avion qui remplace l'écran tactile devant soi. Et j'ai oublié le nom, j'aurais dû le trouver, mais il y a une compagnie aérienne qui propose maintenant l'Apple Vision Pro en business class. Et donc, je trouve que c'est assez cool. Et en revanche, il y a quand même aussi beaucoup de retours négatifs qui sont liés au poids du device, le fait de le porter sur le nez, la batterie qui est un peu lourde, qu'il faut avoir aussi avec soi, la connexion filaire qui n'est pas géniale. Et puis, moi, le point que je voulais vraiment mettre en avant et dont j'aimerais qu'on discute ensemble, qui est le fait qu'il manque vraiment des applications de tierce partie. En fait, on a surtout du first party, on a de l'Apple de très haute qualité. On a quelques applications en third party, notamment l'application Disney, mais qui est un peu cinéma, c'est la même que celle d'Apple. Mais par contre, on n'a pas de Netflix, on n'a pas de Spotify, on n'a pas d'application super importante. Comme il s'en vend pas tant que ça, pour l'instant, apparemment, les premiers chiffres montrent qu'il y aurait 200 000, enfin, en tout cas, les premiers chiffres estimés sont 200 000, ce qui est pas énorme. J'ai même des copains en Silicon Valley qui ont réussi à s'en procurer en magasin la première semaine, ce qui est quand même fou pour un produit Apple. Normalement, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Et donc, j'ai l'impression que les développeurs attendent d'avoir des devices qui sont vendus pour faire autre chose que porter leurs applications iPad. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est véritablement une première version et qu'il faut attendre que ça se vende un peu plus pour qu'il y ait des développeurs qui investissent dessus? Et est-ce que c'est ça qui va faire le succès de cette nouvelle plateforme?
Juste une mini digression un peu pour expliquer le truc, c'est que effectivement, quand t'achètes un iPhone, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement les applications, l'écosystème d'applications purement Apple. Donc, t'as notes, t'as les appels et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir, je sais pas, LinkedIn, Messenger, Instagram, Netflix. Et ça, c'est des applications qui sont pas développées par Apple. Donc, en fait, Apple donne le droit à des boîtes de créer des applications qui sont hébergées sur l'Apple Store et qui sont ensuite installées sur les iPhones. Mais t'as aussi, en fait, ces créateurs d'applications qui acceptent d'investir du temps pour qu'ils soient hébergés sur l'Apple Store avec un certain nombre de contraintes. Et c'est marrant, ça me fait penser à cet exemple du Fire Phone, qui est le téléphone portable lancé par Amazon il y a quelques années, en 2008-2009, qui a pas du tout marché. Et notamment, le problème, c'est qu'il y avait, t'avais le droit qu'à avoir qu'à les applications Amazon. Donc, en fait, t'aurais Prime, effectivement. T'aurais l'application Amazon pour faire du shopping. Mais en fait, très vite, t'as pas grand chose, en fait. Tu vois, et très vite, tu tournes en rond. Donc, c'est ça un peu le problème. Et donc effectivement, t'as peut-être un peu cet effet de cercle vicieux, un peu d'effet d'échelle, effet de réseau où les développeurs se disent j'y vais pas tant qu'il y a pas de vente. Mais en même temps, il y aura pas de vente s'il y a pas de développeurs qui y vont. Donc en fait, espèce de cercle vicieux, hein, qui est assez classique dans les marketplaces. Moi, je sais pas trop là-dessus. Peut-être effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ce qui m'étonne, moi, c'est le fait que Apple est pas identifié et pas anticipé ça. Puisque Apple, c'est les spécialistes de lancer un truc hyper innovant, hyper risqué, genre l'iPhone où personne l'attend, et en fait ça fait un carton. Oui, et Apple, tout ce qui était un peu écouteurs pareil, Bluetooth, c'était effectivement un gros pari et ça a très bien marché. Donc moi, c'est ça ce qui m'étonne également. Donc ouais, je sais pas trop effectivement, est-ce qu'ils sont bloqués dans ce truc-là, est-ce qu'ils l'ont anticipé, je sais pas.
Mais question, je sais pas si vous en rappelez, quand le premier iPhone a été lancé, est-ce qu'il y avait pas exactement le même problème du coup ?
C'était même pire, c'est-à-dire que, alors pour le coup, Anna, je peux en parler, j'étais à SF quand ils l'ont lancé le premier. Et même, nous avons développé avec mon équipe une des 10 premières applications lors de l'ouverture de l'App Store en 2008. Donc, ce qui était pire en fait qu'en 2007, en fait, on n'avait pas de SDK pour développer en natif. Il y avait rien. Sauf que c'était en 2007. Et là, l'Apple Vision Pro, c'est quand même sorti en 2024, 17 ans après. Donc, ils ont quand même appris. Même pour le lancement de l'Apple Watch, il y avait des applications tierces. Même pour l'Apple Watch, en 2014 ou 2015. Donc, Axel, qu'en penses-tu?
Moi, je suis pas ultra proche du sujet Vision Pro parce que je m'en suis pas plus inquiété que ça, ce qui vraiment veut dire que j'ai un meilleur sens du discernement que Victor. Merci de le reconnaître.
Ça c'est fait.
Mais en fait, moi, il y a deux trucs qui me marquent, c'est que j'ai lu un article sur cette histoire de spatial computing parce qu'en fait Apple souvent débarque et dit mais nous on va créer une nouvelle catégorie, ce truc qui s'appelle le spatial computing, etc. Et en fait la personne qui écrivait l'article expliquait que bah, en gros ils ont juste donné un nom à un truc qui existait déjà et qui est quelque chose qu'ils savent très bien faire, donc se positionner et être honneur du positionnement, ça c'est un truc que Apple sait hyper bien faire. Et en fait le challenge là-dedans c'est que ils doivent maintenant prouver que tous les gens qui ont essayé de faire ce truc-là avant, parce qu'il y en a plein, n'ont vraiment pas réussi à l'échelle. Donc là, ils sortent le casque qui ressemble énormément à ce que... je crois que c'est Magic Leap qui avait fait un device un peu similaire, c'est-à-dire avec le... Enfin, en gros, les lunettes et la batterie attachée. Qui avait pas fonctionné en B2C et qui du coup ils ont repensé complètement en B2B et qui aujourd'hui sert énormément dans l'industrie, notamment dans les usines pour les opérateurs de machines, etc. Donc là on voit que c'est un use case qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Vision Pro. Et moi là où je suis hyper sceptique, c'est comment à ce price point tu arrives à créer des expériences et embarquer autant de monde que tu peux embarquer avec une console ou avec l'iPhone. Enfin, l'iPhone a un taux de pénétration, c'est quand même assez délirant. Mais pour moi, le challenge, il est là. C'est-à-dire, OK, tu peux dire, j'ai un produit premium, high-end, ce que tu veux, qui coûte, je sais plus combien d'ailleurs, c'est plus de $3,000, c'est ça?
3,500.
Voilà, $3,500. OK, pour qui et qu'est-ce qu'on attend exactement de ce truc-là? Et dans la review que j'ai lue de Vision Pro, qui est un autre article, la personne expliquait, donc elle a fait deux segments, un segment plutôt promoteur et un segment détracteur. Et dans le segment détracteur, cette personne explique bien que déjà, quand tu portes ce truc-là, tu ressembles un peu quand même à un idiot. Parce qu'en fait, vous verrez que tous les plans produits qui sont faits du produit par Apple sont plutôt des plans rapprochés. Donc on voit souvent que le buste à partir du buste. On voit pas la personne de plein pied, parce qu'en fait quand on regarde de plein pied quelqu'un dans une pièce qui a en fait ce casque autour de la tête et etc, c'est bizarre en fait.
Donc ça d'ailleurs t'as vu des vidéos un peu où tu vois deux mecs qui sont face à face en train de manger et puis les deux ils sont en train de faire le truc sur leur Apple Vision Pro et vraiment ouais. Tu te dis mais c'est débile, enfin ou je sais pas, c'est vraiment bizarre quoi.
C'est bizarre.
Soit en fait voilà. C'est la fin du monde, soit où vraiment on est un peu.
Il y a ce sujet-là et je trouve que il explique aussi que en fait c'est un MVP un peu cher cette histoire, parce que dans la projection des informations, des graphiques, etc., dans l'interface, il y a plein de challenges de gestion de la profondeur et du coup, il y a plein de flou. Il dit, des fois, on est en train de regarder les interfaces et il y a du flou un peu partout. Et il dit, imagine, tu dois porter ce casque pendant relativement longtemps à travers une expérience, je sais pas, un film ou un jeu ou quoi que ce soit. C'est pas une expérience 100% terminée. Donc, en fait, 3500 balles pour un outil comme ça où il y a, en gros, 5 applis. Enfin, j'exagère, hein, mais il y a 5 applis. Il y a rien de ce que tu utilises day to day. Et en plus, l'expérience n'est pas 100% terminée. Ça fait un peu cher quand même. Limite, j'aurais préféré avoir une version dégradée du truc carrément, tu vois, ce que Apple, oui, Apple ne fait jamais.
Mais c'est pas possible, voilà, c'est Apple, c'est voilà. Pas possible.
Donc, avoir une version dégradée du truc qui pousse tous les développeurs à se mettre dessus et à se dire, ah ouais, là, il y a un terrain intéressant, on va y aller, et ensuite avoir le vrai truc, en fait.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un sujet d'adoption, et juste pour rebondir sur ton premier point de dire, en fait, t'as pas du tout de plan large des personnes qui le portent. Finalement, quelles sont les situations dans lesquelles tu t'en fous de ce à quoi tu ressembles? Et je voulais juste faire le parallèle avec ce que disait Stéphane, que du coup, en fait, il y a des airline companies qui sont en train de se doter de ça. C'est qu'en fait, je trouve dans l'avion, dès que t'es moche, parce que t'as la bouche ouverte, t'es en train de baver et tout. Vas-y, ouais. C'est nickel, c'est trop cool.
Déjà, faut voir comment tu te sapes pour aller dans l'avion, quoi.
Bah ouais, en plus, vraiment, tu ressembles à rien, donc c'est le lieu parfait.
Ouais, c'est clair. Moi, je me change aussi pour mettre en pyjama, du coup, pour donner un petit détail, oui. Et ce qui est marrant, tu vois, il y a deux choses que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, Apple, c'est quand même un truc sexy, tu vois. Enfin, ça veut dire, t'as ton iPhone. L'iPhone, c'est un truc qui est classe, qui est joli. L'Apple Watch est pareil. Les MacBooks, tout l'écosystème Apple, c'est un truc de gens classe. Et donc, effectivement, là, on est sur un truc où, fondamentalement, t'es en pantoufles chez toi.
Bulky,
sur ton
quoi.
Canapé en train de regarder. Ouais, c'est ça, c'est un peu cringe, quoi. Netflix and chill. Et deuxième truc aussi, c'est que, ce que tu disais sur un peu le côté B2B. Enfin, en fait, là, ce qu'on est un peu en train de dire, c'est que, grosso modo, en fait, à ce price, Apple a super bien réussi à vendre très cher des téléphones. Parce qu'avant Apple, t'achetais pas un téléphone 1000 balles, 1200. Ils ont réussi, en fait, à amener les gens sur ça. Mais parce que, bon, évidemment, la techno est folle. Et puis, les smartphones, c'est une vraie révolution. En fait, là, il y a ce pari de réussir à le faire sur un truc où la révolution est peut-être plus difficile à percevoir. Et en plus, tu vas encore plus cher. Ce qui fait que le risque, c'est qu'en gros, oui, c'est ça. Ça se pivote. Enfin, en fait, tu pivotes sur des B2B comme les lignes aériennes, mais pas sûr que Apple ait envie de faire ça. Ou en fait que les gens qui ont envie de faire ça, c'est les gens qui ont des boîtes et enfin, tu vois, soit qui sont très très riches, soit en fait qui ont des boîtes et du coup qui le passent en charge et donc en fait tu t'en fous parce que voilà. Enfin, donc en gros tu vas quand même, ouais, en termes d'adoption, tu vas avoir du mal à pénétrer grand public avec un price point comme ça. C'est un vrai challenge. Les seuls, en fait, là en y réfléchissant, les seules industries où tu peux dépenser vraiment cher pour des devices, où tu dépenses vraiment cher de manière récurrente, c'est les jeux vidéo. Mais même chose en fait, Apple, ils ont pas envie de vendre des trucs à des gens qui font du jeu vidéo. Et d'ailleurs, les gens qui font du jeu vidéo, ils aiment pas en général les trucs Apple parce que t'as pas suffisamment la main pour ajouter des cartes.
Écosystème fermé.
Exactement.
Ouais. Oui, donc le sujet ici, selon moi, et peut-être qu'on va être d'accord là-dessus, c'est vraiment le sujet de la plateforme. Est-ce que cette plateforme Spatial Computing va trouver sa place? Est-ce que les développeurs vont vouloir investir si la distribution n'est pas au niveau? Parce qu'en fait, ce dont on manque aujourd'hui, au moment où on se parle, et ça fait 3 semaines, hein, donc il faut aussi avoir un petit peu l'humilité de se dire qu'on n'a pas encore tout vu, c'est que il faut des use cases. Il faut des use cases. Et ces use cases vont venir que parce qu'il y aura la distribution. Mais le problème, c'est que il faut qu'ils mettent vraiment plus en avant ce qu'ils ont proposé pour que ça se vende, même à ce price point-là, et qu'ensuite ça devienne attractif pour les développeurs. Donc c'est quand même une équation assez compliquée. Hein.
Mais tu penses pas, parce qu'en vrai, quand même, Steph, les devs, c'est des gens qui sont, un peu désintéressés quand même. Enfin, s'il y avait des usages un peu clairs qu'on voyait, les devs, ils développeraient des trucs, tu vois. Pour moi, t'as des grosses boîtes qui vont peut-être pas aller dessus, effectivement. Tu vois, Netflix va pas investir ses cartes, tu vois. Mais t'auras peut-être des mecs qui se diraient, bon, bah, moi, dans mon coin, j'ai envie de développer un petit truc parce que je kiffe, j'ai envie d'avoir un usage, j'ai envie d'utiliser moi-même. Enfin, tu vois, est-ce que c'est le signe que les devs va pas aller dessus? C'est aussi le fait qu'il y ait pas vraiment d'usage, du coup. Enfin, tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais.
Oui, c'est ça.
En fait, s'ils voyaient des usages. Tu vois, la blockchain, tu vois. Autre exemple du techno, t'as pas vraiment d'usage, tu vois pas vraiment, mais t'as quand même des mecs qui croient suffisamment pour aller développer des trucs. Et sans être forcément payé. Alors t'as des grosses boîtes, mais tu vois, ils y vont sans y être forcément payés. Là où tu vois,
ce que tu dis là, juste pour rebondir sur ce que tu dis. Donc moi, je suis assez aligné avec ça. C'est-à-dire que je pense que il y a un engouement côté consumer parce que bon, faut reconnaître, c'est quand même assez innovant ce truc-là. Mais côté développeur, moi en fait dans ma tête, je me dis, qui dit développeur dit déjà écosystème ouvert. Donc là, avec Apple, compliqué, oui. Quoi. Et qui dit développeur dit un peu scrappy, tu vois. Et scrappy, c'est antinomique à 3 500 $. Tu vois ce que je veux dire?
Et avec une expérience Apple.
Ouais, voilà.
En plus. C'est-à-dire que on l'a bien vu. Enfin, moi, en 2012, j'avais les Google Glass. D'accord, j'avais accès aux Google Glass par mon employeur, ESPN à l'époque. Et il fallait trouver des use cases pour ça. Donc je les ai portés pendant des jours. J'ai filmé des trucs, j'ai fait des photos. C'était les seuls use cases que j'ai trouvés. Et après, au moment d'essayer de trouver justement des applications pour ESPN, c'était compliqué. Et 12 ans plus tard, l'Apple Vision Pro, il propose de faire des choses intéressantes sur le papier. Typiquement, moi qui suis fan de sport et notamment de football, je rêverais pouvoir avoir de la réalité augmentée et pouvoir avoir les stats des joueurs en même temps que je regarde le match. Ça, j'en rêve. Maintenant, qui va le faire? Qui va mettre l'argent pour utiliser les SDK, pour former les développeurs, pour faire en sorte que ce soit distribué, pour vendre ça, parce que forcément, il va falloir le vendre, si tu veux que ça soit bien. Est-ce qu'il y a du free-to-play ou du free-to-use qui va arriver là-dessus, sur la plateforme, sachant que ça coûte $3,500 à l'achat, et c'est sans les extensions, d'accord? Parce que c'est le prix de base. Donc, je pense que il y a des use cases à aller chercher, à aller créer, mais ils sont pas évidents. J'ai un peu de mal à voir.
Et alors du coup, en gardant encore une fois de l'humidité et tout, hein, parce qu'effectivement, qui sommes-nous pour juger tout ça? Mais enfin, Apple, pour moi, c'est quand même une boîte.
Qui sommes-nous? On est des gens qui doivent sortir $3,500. Ouais.
On est le consommateur paye avec, il vote avec sa carte bleue. Non, comment Apple a pas pu anticiper qu'il fallait des développeurs qui bossent dessus? Alors du coup, je sais pas, je pose des hypothèses et du coup, après on y réfléchit. Est-ce que, en gros, ils hubrissent, en fait, ils sont tellement bons qu'ils ils investissent, ils disent on est tellement fort, on va réussir tout, et puis ils font pas attention. Est-ce que c'est Steve Jobs est plus là, donc on n'arrive plus à faire des trucs vraiment innovants, vraiment cool? Pourquoi, comment ils ont réussi? Est-ce qu'en fait ils ont raison et puis ça va quand même marcher au final? À votre avis?
Ouais, c'est ce qui m'étonne aussi. Ouais, mais je me demande, est-ce qu'il y a juste certaines fonctions, certaines personnes clés qui font partie? Que Steve Jobs, pour moi, c'est quand même une autre F. Enfin, ils ont sorti quand même d'autres produits qui ont très bien marché depuis. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'étonne. Enfin, une boîte qui a systématiquement sorti quand même des beaux produits. Et là.
On ne sait pas si ça a échoué. Enfin, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Ça a peut-être pas échoué parce que peut-être que la perception du succès chez Apple n'est pas de, enfin, tu vois, c'est peut-être pas ça qu'ils voulaient faire.
Mais c'est peut-être que la métrique de succès, c'est pas forcément l'adoption massive.
Voilà. Peut-être que la métrique, c'était, comme disait Steph tout à l'heure, vendre 200 000 unités. Pour appeler un certain nombre d'engagements sur la plateforme et j'en sais rien hein, mais peut-être que c'était ça. Donc peut-être que c'est pas encore l'heure de dire de sonner la fin du jeu entre guillemets, mais ce qui m'intrigue vraiment c'est que il y a une boîte qui a essayé de faire exactement ça avant qui s'appelle Magic Leap derrière lequel il y avait un engouement de malade
qui a levé des centaines de millions de dollars.
Mais oui, mais c'était fou, cette histoire est folle et aujourd'hui cette boîte ne fait que du B2B. Et vend des lunettes pour des opérateurs sur des lignes de production dans les usines. Enfin, c'est ça en fait. C'est quoi le, pour reprendre un terme de Rémi Guyot, c'est quoi le first use case du Vision Pro quoi?
Vendre du matériel. C'est peut-être simplement une extension de leur écosystème.
Le seul truc que je trouverais smart à ce point, je veux dire, c'est qui dit Vision Pro dit Special Computing, qui dit Special Computing dit nouvelle plateforme, donc nouvelle plateforme. Potentiellement new revenue stream pour Apple. Mais c'est pas encore clair ce truc là non plus, tu vois.
Parce que ouais, et puis en plus ce qui est compliqué c'est qu'en fait tu vois le côté une boîte qui l'a fait avant mieux qu'eux et en fait eux juste ils le marketent très bien, font de la super pub et enfin ça c'est quand même l'histoire d'Apple hein, plus ou moins parce que les enfin tu vois le MacBook c'est genre le même ordinateur que IBM faisait, c'est juste qu'ils ont dit on met deux ports et on enfin grosso modo c'est un peu ça et d'ailleurs les tracteurs d'Apple disent tout le temps ça, ils disent en fait Apple tu payes x2 parce que il y a du marketing, mais en fait, ça te permet pas de faire autre chose. Et puis, en fait, moi, mon père met tout le temps ça parce qu'il aime pas Apple. Et puis, moi, je lui dis, ouais, mais n'empêche, c'est quand même super bien. Et puis, quand je change d'iPhone, j'ai direct mes applications qui sont vendues. Donc, non, mais le truc qui est compliqué sur ces devices-là, où c'est pas des produits normaux, c'est que, en fait, comme tu dis, c'est une plateforme. Donc, c'est un moyen de faire un truc. Un ordinateur, ça a pas d'utilité intrinsèque en soi, ou en tout cas, c'est limité. C'est tout ce que ça permet de faire. Donc, en fait, peut-être que aussi, il y a des méta-usages qu'on n'arrive pas à identifier. Peut-être qu'en fait c'est un nouveau type d'ordinateur.
Ouais, j'ai une suggestion. Ça, je t'écoutais Victor et j'ai une suggestion qui vient juste de m'arriver là. Et si c'était une autre façon d'avoir un nouvel écran pour vendre du service Apple? Parce qu'en fait les services c'est ce qui pousse, c'est ce qui grossit là d'année en année, de quarter en quarter, et c'est simplement une nouvelle plateforme pour vendre du Fitness Plus, pour vendre de l'arcade, pour vendre du Apple TV Plus. En fait,
c'est ça. New revenue stream. Mais voilà. Le challenge reste que faire tout cet effort pour finalement que avoir 200 000 unités et du coup que le potentiel de service lié à 200 000 unités, peut-être qu'ils en vendront plus dans le futur, je sais pas, ça me paraît un peu, enfin, tu vois, l'équation du ROI, elle est pas évidente. Surtout pour une boîte qui sait exécuter des stratégies de go-to-market assez complexes. Et en fait, moi, je suis vraiment dubitatif. En fait, je comprends pas ce move. Ça, je sais pas, il y a quelque chose.
Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi ça coûte aussi cher? Enfin, qu'est-ce qui coûte cher? C'est d'avoir une batterie intégrée. C'est le côté réalité augmentée. C'est ça qu'est-ce qui coûte cher vraiment à ce point-là dans l'affaire?
J'ai aucune idée, mais on peut imaginer que la qualité des écrans intérieurs, les optiques à l'intérieur, dont il paraît que les pixels sont extraordinaires.
Et apparemment, c'est pas du Retina. C'est moins bien que du Retina. Donc, ça pose des questions aussi, tu vois.
En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que du point de vue de design industriel, c'est quand même fantastique. Du point de vue d'application Apple, c'est quand même du super bon boulot, même si apparemment il y a des bugs. Le sujet de la plateforme, c'est là où il faut bosser. Mais comme dans tous les premiers produits Apple, moi, j'ai toujours l'Apple Watch, la première, hein. J'ai toujours employé. Elle fait bien le job. Elle fait pas ce que fait la 7 ou la 8 ou la 9. Je sais même pas à combien on est. Mais elle fait le job. Et donc, peut-être qu'il faut se dire, on verra le move. On comprendra mieux le move dans la version 2 de Apple Vision Pro ou de la version 3, etc. Ça nous paraîtra. Mais aujourd'hui, c'est un peu déceptif, de ce point de vue-là.
Sur une note de 1 à 10, là, du coup, là, on se dit, bon, on fait des prévisions sur le futur, évidemment. Sur une note de 1 à 10, entre 10, ça va faire un carton équivalent à l'iPhone. 1, ça va faire comme le Fire Phone et les Google Glass. On en pense quoi, là, si on devait donner une note chacun à nous?
Sur quelle temporalité?
Ad vitam. Enfin, non, si dans 20 ans, mais d'ici 5-10 ans, en fait. D'ici 5-10 ans.
On est passé de ad vitam à 20 ans à 5-10 ans quand même. Je sais pas si vous avez remarqué.
L'année prochaine.
Bientôt le mec va nous dire demain, tu vois.
on va dire suffisamment longtemps pour qu'en gros, il y ait pas une nouvelle vague. Enfin voilà. Là ils ont lancé.
5 ans. En vrai, vu la vitesse à laquelle ça avance, 5 ans, ça me paraît pas mal quand même. Moi, sur 5 ans, je mettrais 5 sur 10.
Ouais, mais j'aurais mis un 6 sur 10 parce que je pense qu'il y a des usages qu'on voit pas encore qui sont peut-être plus B2B. Peut-être dans la médecine, je sais pas. En vrai, moi, je vois bien des trucs dans la médecine.
Mais tu penses qu'Apple investirait sur un truc qui est plutôt B2B?
Mais pas B2C, du coup, là. Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. Moi, je pense qu'ils vont un peu s'étendre. Je pense que là, ils sont peut-être en train de tester le marché, un peu, comment dire... Enfin, ouais, avoir des early adopters qui seront ensuite des ambassadeurs dans les entreprises. Ça me choquerait pas. Tu crées un usage personnel et ensuite, du coup, la personne est ambassadrice de ton produit pour s'en doter dans ton entreprise. Mais moi, je suis pas très convaincu par le cas B2C, perso. En tout cas, je pense pas être dans la cible, peut-être.
Steph, tu mets combien sur 10?
Ouais, moi, je mettrais sur 5 ans. Dans 5 ans, je mettrais un 7. Parce que je vois bien la convergence avec AI et la réduction du hardware. Donc, la réduction en taille, en poids du hardware, AI, réalité augmentée. Donc, dans 5 ans, je nous imagine avec des lunettes, comme là, on est 3 sur 4 à avoir des lunettes. Je nous imagine plus avec un form factor qui ressemblerait à des lunettes et de l'intelligence... qu'on puisse avoir à portée des yeux. Mais voilà, 5 ans, on est vraiment sur un horizon 5 ans.
Et de toute façon, on va tous finir avec des lunettes après, avec des écrans aussi près de nos yeux.
Et toi, Victor?
Du coup, je suis emmerdé parce que si je mets une note trop élevée, c'est sûr que je vais les acheter, mais je suis entre 6 et 7, je pense, je vais dire 6,5, mais 6,5 parce que j'ai beaucoup foi en Apple et puis je pense qu'il y a un truc quand même. Mais c'est étonnant, enfin, c'est intéressant parce que quand même, ce qu'on dit, c'est qu'à 5-10 ans, on pense qu'Apple va réussir. Donc c'est peut-être juste un sujet de timing, ils auraient été un peu trop en avance, en fait. Donc, du coup, ça va marcher, mais ils sont juste un peu en avance. En tout cas, on a la conviction, j'ai l'impression ici que la VR, ça fait partie un peu de l'avenir de la technologie.
Après, moi, j'avoue, je suis biaisé quand même par la marque Apple et par les succès d'Apple.
Non, on est tous, je pense, biaisés. Sauf les anti-Apple, je pense, mais.
Qui sont biaisés aussi.
Dans l'autre sens.
Et mais qui misent dans l'autre sens. Ouais, c'est ça.
Mais par exemple, on attend toujours la voiture. La voiture Apple qui a été le projet Titan, on l'attend, hein. Peut-être qu'ils attendent le bon, mais en même temps Tesla est en train de prendre le marché, donc peut-être que c'est plus le moment. Donc le time to market, comme tu le disais Victor, est important. Et après, est-ce qu'ils auront les moyens financiers pour assurer sur les 2-3 prochaines années? Clairement oui. S'il y a une boîte qui peut le faire, c'est bien elle. Est-ce qu'ils ont les compétences en interne et le pouvoir d'attractivité auprès des développeurs? Sans doute oui. Donc après, c'est une question de foi dans la marque.
D'approvisionnement des matériaux aussi. Hein. C'est le sujet numéro un de tous les mecs qui font quelque part dans leur stack où ils doivent faire du processing, les puces et le silicone, c'est bizarre parce qu'en fait on parle de tous ces produits, mais pouvoir par exemple produire le Vision Pro, si demain ils trouvaient vraiment product market fit à échelle, ça va demander mais autant de matériaux que tout le reste, quoi. Donc ça, c'est un autre sujet aussi, on en a pas parlé, mais anyway, super intéressant ce sujet Vision Pro ce matin. Ça serait cool si vous avez acheté un Apple Vision Pro, on serait content de vous lire.
De le prêter à Victor.
Ouais, prêtez, ouais, voilà. Prêtez-le à Victor déjà, mais envoyez-nous un petit mail, dites-nous ce que vous en pensez, ça nous intéresse, et puis on le repartagera sur LinkedIn à la sortie de l'épisode. Et je vous propose de passer à l'outil IA de la semaine. Je pense que Steph, tu avais un truc à nous proposer.
Oui, alors j'en ai déjà parlé parce que je l'ai découvert via Stéphane Peters, d'ailleurs très joli prénom, Stéphane Peters sur LinkedIn, qui parlait de Opus Pro. Et donc, ça a titillé mon esprit, je l'ai regardé, j'ai essayé et j'ai acheté. Voilà, et qu'est-ce que c'est qu'Opus Pro ? Alors, c'est une fameuse IA générative qui prend des fichiers vidéo longs et qui va les découper en micro-clips pour faire du contenu snackable, comme on dit chez les jeunes, pour pouvoir le poster sur LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. Et ce qui est vraiment génial, outre le fait que ça découpe, c'est qu'en plus, ça fait de la reconnaissance textuelle, enfin de voix, ça transforme ça en sous-titres. Et donc, ce qui prenait avant plusieurs heures pour prendre une vidéo de une heure, par exemple, et de la découper, ça vous le fait automatiquement en 3 minutes. Donc après, vous pouvez repasser derrière, changer les sous-titres, parce qu'il y a des petites corrections à apporter, il y a des phrases qui sont pas forcément toujours très très bien traduites, mais ça s'améliore en plus au fur et à mesure des vidéos. Et j'utilise constamment, à chaque fois que j'ai une prise de parole, ou voir, j'extrais des vidéos, d'ailleurs je l'ai fait pour une interview de Steve Jobs il y a quelques années à une conférence avec Bill Gates. Et donc, bah voilà, ça reconnaît la voix, ça reconnaît, ça découpe. C'est très impressionnant. Ça marche dans plusieurs langues. Ça marche dans plusieurs...
Ça marche bien en français?
Ça marche très bien en français, ouais.
Parce que ça, c'est le truc à chaque fois.
Ah ouais, ça marche très bien en français. Et d'ailleurs, je crois que j'ai posté une vidéo hier qui utilisait Opus Clip. Enfin, Opus Pro. Et à tel point que j'ai indiqué dans un post LinkedIn qu'elle était ma stack produit, notamment AI, que j'utilisais, et les gens d'Opus Pro m'ont dit, on est hyper content que tu utilises et tout ça. Donc peut-être même qu'on pourrait être amené à négocier un petit tarif là pour la prochaine fois, si c'est OK. Une petite réduction pour les auditeurs de
Pour les influenceurs.
Ah bah ouais, avec grand plaisir.
Attends, Steph, juste pour bien comprendre, il t'identifie les bons moments. En gros, il va te dire, ah tiens, ça, ce moment, c'est vraiment gros banger. Là, je te l'isole et je t'en fais un mini. Il te fait ça vraiment?
C'est exactement ça. Et il te propose, alors attends, parce que t'es bien assis, sur une vidéo d'une heure, par exemple, il te propose 30 clips avec un coefficient, un score d'intérêt. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une phrase d'accroche, est-ce qu'il y a de la valeur qui est délivrée, est-ce que c'est actionnable, etc., etc. Sincèrement, l'essayer, c'est l'adopter.
Ouais. Et en fait, ça, c'est un trend qui se généralise. Donc, Riverside, ils font ça depuis, je crois que ça fait 3 à 6 mois qu'ils font déjà ça. Il y a un bouton dans Riverside qui est la plateforme qu'on utilise pour enregistrer cet épisode, où à la fin d'enregistrement, quand ton épisode est prêt, tu as deux boutons. Un bouton qui s'appelle Magic Editor ou un truc comme ça, où en fait, tu appuies le bouton et il te montre tout l'épisode. Il enlève tous les blancs, il enlève les mots récurrents. Il enlève tout ça, il te montre l'épisode et il fait tout ça tout seul et l'épisode est prêt avec les sous-titres. Et il y a un deuxième bouton qui s'appelle Magic Clips. Et pareil, tu cliques dessus et ça te sort les highlights, les bons clips. Et il y a une trentaine de clips par heure. Enfin, c'est hyper bien foutu. Donc ça, je trouve que c'est des phénomènes qui se généralisent, notamment dans les logiciels de production de contenu audiovisuel. Et je trouve ça cool parce que le workflow de produire des contenus, ça peut être ultra chronophage.
Et franchement, je sais pas ce que t'en penseras, Anna, mais si j'étais monteur vidéo, je serais hyper inquiet.
Bah oui, en fait,
avoir l'AI que tu paies $120 ou $130 ou un truc comme ça à l'année pour avoir 3000 minutes. Alors que quand t'es une personne tout seul et c'est ton revenu et que tu mets 5 heures pour faire la même chose.
Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Surtout, il me semble avoir vu ton post et je me suis posé la question que je crois que tu postes assez régulièrement. Donc, je me suis dit, mais comment humainement, Steph peut faire autant de choses en une journée, en 24 heures? Mais ouais, mais c'est trop cool. Du coup, t'as un peu augmenté, quoi. T'as un peu.
Quand il est pas dans son salon en pyjama avec sa Google.
Attends, t'as un post parmi les posts de Steph où il explique justement qu'il fait plein de trucs et qu'il est un peu hyper actif. Donc, quand tu suis, tu vois, il explique aussi.
Ouais. Non, mais c'est cool.
Ouais, donc voilà, c'est assez hallucinant de se dire que des AI nous permettent très spécialisés. Donc c'est pour ça que j'y crois pas trop à les AI tout de suite. Mais que des AI très spécialisés nous permettent d'accélérer, voire de compléter des compétences qu'on n'avait pas.
Complètement, ouais, pour une fraction du prix.
Pour une fraction du prix.
Ouais, parce que là, parce que moi, du coup, pendant que tu disais ça, tu vois, j'étais en train de réfléchir effectivement à moi, le boulot que je fais avec mon monteur vidéo. Donc en fait, il me filme pendant 3 heures et après, il fait la partie montage.
Il y a quelqu'un qui va perdre son job là.
Ouais, alors non, mais il y a quand même un truc que l'IA peut pas faire, c'est lui, il a les bonnes caméras, les prises de son et tout. Ça, je peux pas le faire, mais par contre, il pourrait me transférer juste les bandes.
Non, mais si tu veux du contenu un peu snackable, un peu rapide pour voilà, pour lancer, pour faire un poc, pour voir s'il y a un message qui porte, enfin, si tu veux de réinventer un peu sur les réseaux sociaux, tu utilises ça. Et quand tu veux un truc un peu plus professionnel, une fois que t'as un peu créé ta base de faut le truc pro, quoi.
Mais tu as raison, Anna, parce que les deux derniers épisodes de vidéo, pardon, de podcast où j'étais enregistré, il y avait la partie vidéo qui était gardée et le responsable du podcast a décidé de faire des petits clips comme ça. Et le premier l'a fait à la mano, ça lui a pris un jour. Le deuxième utilisé Opus Clip, ça lui a pris quelques minutes. Voilà. Et il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. Donc évidemment, en plus, pour faire la promotion de ton contenu, c'est fantastique.
Ouais.
Axel, moi, sur le podcast vidéo, faut que je creuse ce truc-là quand même, hein, parce que ça peut me faire des petits.
Je peux te montrer comment ça fonctionne dans Riverside si ça t'intéresse, mais je trouve que c'est un truc qui se généralise. Là, on va clore là-dessus. La semaine dernière, j'ai fait partie d'un échantillon de user research pour Descript, que vous connaissez probablement. C'est une boîte canadienne, et j'ai parlé à un des product managers. On a passé une heure ensemble. Ils m'ont montré tout ce qu'ils sont en train de préparer d'un point de vue à l'intelligence artificielle et comment ils vont l'embarquer de plus en plus dans l'outil qui embarque déjà pas mal d'IA. Et en fait, il y a une vraie réflexion autour d'avoir un assistant, un compagnon dans Descript qui va pouvoir t'aider tout au long de ton workflow de production de contenu à minimiser ton temps de travail. Comment ça s'articule? Ça peut être génère-moi les clips des highlights de cet épisode que je viens d'enregistrer. Ça peut être enlève-moi tous les et tous les ce qu'on appelle des filler words en anglais. Enlève-moi tous les doublons, corrige la colorimétrie, tous ces trucs-là, tout sera automatisé. Et en fait, moi ce dont je me rends compte, c'est que depuis que j'ai un peu intégré de l'intelligence artificielle dans mon workflow de production de contenu, j'ai gagné des jours entiers de travail. Parce que, encore une fois, ça peut être ultra chronophage. Donc, effectivement, Victor, sur de la production de contenu vidéo, je pense que l'IA, c'est un facteur multiplicateur de gain de temps assez important. Merci à tous d'avoir été là ce matin avant nos vacances. C'était super sympa de t'avoir, Steph. Merci d'avoir été avec nous. C'était très cool. À nos auditeurs, je vous dis à dans une semaine ou deux, puisque c'est les vacances scolaires et on va se faire un petit break avec les copains Victor et Anna, et puis on vous retrouve très vite sur Product Café les mardis matins.
Merci, au revoir.
Salut.
Merci beaucoup. Better to have some enemies, the jealousy is sweet. Thank you, I can hate you, and all you trying to be is me. I'm trying to be as free as the Holy Spirit. The flow coherent, I'm with the smoke, and you with the smoke and mirrors. I told my bitch to hold the steering wheel while I roll the swisher. Light it while she posts a picture. Ferrari emblem, got a posing different. She know we driven, coexist with my co-defendants. Moe sipping, hold a stick like I hold a sentence. Oh, he gifted, and he act like he know. This an eight ball, and bitch, I'm about to blow. I blame it on the strawberry privilege. Riri on my wish list. Turn the CNN off and crank the George Benson. Stomach always grounded cause my appetite expensive. Just left Harry Winston. It got me smiling different. Ay.